RMC, 19h20, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
En direct de Colombey-les-Deux-Églises, là au pied de la Grande Croix de Lorraine, qui évidemment évoque le souvenir du général de Gaulle le plus illustre des habitants de cette petite commune, où s'est donc achevée tout à l'heure la 8e étape du Tour de France, une étape où on s'est ennuyé ferme avec une échappée, avec un seul coureur qui durant 169 km a résisté au peloton avant de s'écrouler dans le final de l'étape à 15 km de l'arrivée lorsqu'il a été repris par le peloton. Et le peloton a été réglé par un garçon érythréen dont on a déjà beaucoup parlé dans ce Tour de France, Binyan Girmay, qui s'impose pour la deuxième fois et qui conforte son maillot vert de leader. On va s'intéresser un peu aux forces en présence dans ce sprint, puisque la donne a été redistribuée depuis l'année dernière. Philippe Sen remportait tout l'an dernier. Cette année, c'est plus compliqué. Une nouvelle fois deuxième, il est le poulie d'or du Tour de France 2024. On parlera également des sprinteurs français qui n'ont pas réussi leur mission aujourd'hui, même si Anthony Turgis a montré de belles choses. Et puis on évoquera aussi l'étape de demain, cette 9e étape entre 3 et 3, avec une petite nouveauté, puisque les coureurs du peloton vont emprunter les fameux chemins blancs qui sont très à la mode en ce moment. Il y a les Strade Bianche en Italie, et demain il y aura donc les chemins blancs de l'Aube pour les coureurs du peloton. Cyril Guimard, Jérôme Coppel, Pierre-Yves Leroux, Arnaud Souk, voilà un carré d'as.
Bonsoir, chef.
Salut tout le monde.
Comment allez-vous, les garçons ?
Bien, bien, bien.
Ouais, ça a été long aujourd'hui quand même, Cyril. Hein. Je sens que
ça a été long parce que t'as pas mis suffisamment d'ambiance. Sinon, on aurait.
Il nous a manqué une heure de sommeil surtout. C'est pour ça que c'était très long.
Ah, il va nous en parler jusqu'à la fin du tour.
On est là depuis 8h du mat, 8h, 20h, 12h dans le camion.
Il a perdu une petite heure de sommeil. Il va en parler jusqu'au 21 juillet.
À son âge, c'est normal. Hein.
Petite nature.
Ça commence à compter hein, au bout de 7-8 étapes, une heure de sommeil.
Ah oui, c'est sûr. Oh, bah, y en a un autre qui baille. Arnaud qui a passé une longue journée sur la moto.
J'ai eu très froid.
T'as eu froid.
Entre 16 et 18 degrés, non, franchement, j'avais pas prévu le coup là. Heureusement, il a pas plu.
Il a pas plu. En plus, tu as quand même évité la pluie, mais le froid était là aujourd'hui. On espère que les choses et que la météo va s'arranger dans les jours qui viennent. Binyan Girmay remporte donc une nouvelle fois une étape sur les routes du Tour. Il s'était déjà imposé à Turin en début de semaine. Deuxième succès et maillot vert renforcé pour l'Érythréen de la formation Intermarché. C'était tout à l'heure dans l'intégral Tour.
On n'est plus très loin, on est à 200 mètres de l'arrivée, il faut s'exciter. Et Brian Coquard, il est sur la gauche de la route, il tient la langue. Brian Coquard, c'est un peu compliqué avec Binyan Girmay. Il y a Arnaud Delis aussi qui est en bonne position. Binyan Girmay qui est à la lutte avec un coureur d'Alpecin. Binyan Girmay qui va s'imposer. Binyan Girmay qui s'impose une nouvelle fois ici à Colombey-les-Deux-Églises. C'était pas loin pour Brian Coquard, mais il était un petit peu juste.
Incroyable Tour de France réalisé par Girmay.
It was perfect. Perfect.
Binyan Girmay qui prend son vélo derrière la ligne et qui le soulève, et ses équipiers derrière dans le dernier kilomètre qui peuvent faire éclater leur joie. Ils ont encore une victoire. Binyan Girmay, l'Érythréen, qui s'impose à Colombey-les-Deux-Églises.
Encore, ça fait beaucoup là, non ?
Ouais, ça fait beaucoup, mais je suis sûr qu'il en voudrait encore un peu plus, Girmay, ce coureur de 24 ans qu'on n'a pas découvert sur le Tour, parce qu'on rappelle qu'il avait quand même quelques lettres de noblesse, notamment une victoire dans le Giro, victoire d'étape. Mais là, c'est un Tour exceptionnel qu'il est en train de réaliser, Jérôme. Franchement, on ne l'a jamais vu aussi fort depuis le début de sa carrière. Il faut dire qu'il a été épargné par les blessures depuis quelques temps, qu'il est en confiance, qu'il a déjà remporté une étape, donc c'est que du bonus pour lui, et qu'il porte fièrement le maillot vert sur les épaules, peut-être
bon
jusqu'au
moment.
Bout.
Et ouais, peut-être pour un bon moment, parce qu'il a quand même 88 points d'avance sur Philippe Sen au classement du maillot vert. Mais tu l'as dit, il n'arrive pas de nulle part non plus, hein, Girmay. Il a gagné une étape au Giro d'Italia, une étape au Tour de Suisse, le circuit franco-belge cette année. Donc on sait que c'est un coureur de qualité. Il ne serait pas chez les pros, il ne serait pas au départ du Tour de France. De là à le voir gagner deux étapes du Tour de France, deux étapes en 8 jours, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui aurait parié là-dessus. Maintenant, l'histoire est magnifique pour lui. Il a gagné son étape à Turin. On sent que. Alors c'était un de ses grands objectifs de carrière bien sûr, mais on sent que s'il est complètement libéré maintenant, c'est que du bonus. Et quand vous surfez sur une bonne vague, que ça soit collectivement ou individuellement, bah vous êtes sur votre petit nuage. Regardez Kevin Vauclin qui gagne son étape, fait un chrono incroyable. C'est la même chose en fait. Une fois que t'es libéré de ça et tu sais que t'as la forme, et bah après en général tout va dans le bon sens. Et pour d'autres c'est l'inverse. Quand ça s'en mange mal, et ben des fois ça s'en mange mal pour 3 semaines.
J'ai repensé quand Cyril nous a dit bah moi mon favori c'est Binyan Girmay. que lui, on voulait en faire un grappeur quasiment au début de sa carrière, qu'il était aussi vététiste avant d'être un sprinter et que bah, en Érythrée, il y a énormément de boss, donc forcément, cette arrivée lui convenait.
Et ça, c'est pas anodin. S'il voulait en faire un grappeur, ça veut dire qu'il a des petites qualités de grimpeur. Et pour le maillot vert, il va leur rester quelques étapes, on en parlera plus tard. Mais il est capable de se glisser dans des échappées sur des étapes qui sont dures et prendre des points au sprint intermédiaire. Ce sera peut-être pas le cas d'un Philipsen qui est son adversaire direct au maillot vert, par exemple.
Un garçon capable de gagner dans tous les genres de sprint. Hein. On avait un sprint classique du côté de Turin. Aujourd'hui, c'était donc un sprint en montée. Cyril, tu en avais fait ton favori. Pourquoi tu en avais fait ton favori ? Parce que justement, il est plus léger que les sprinteurs traditionnels qui sont un peu plus costauds et qui ont un peu de mal à passer les bosses. Pourquoi tu en avais fait ton favori aujourd'hui ?
Eh bien, d'abord, il arrive d'un pays où il n'y a pas beaucoup de sprints dans les courses qu'ils font, puisqu'il n'y a pas un kilomètre de plat, il n'y a que des cols. Donc déjà, pour arriver au niveau professionnel, ça veut dire que par obligation, chez lui, il grimpait. Et d'ailleurs, si on regarde sa stature, c'est un garçon qui est longiligne. Il n'a pas des grosses cuisses comme la plupart des vrais sprinters. Et puis, on l'a toujours vu dans les parcours un peu difficiles être présent. Puis dans des arrivées en bosse, il y a le rapport poids-puissance. Et le rapport poids-puissance, c'est énorme. Deux coureurs qui vont sortir 1000 watts, celui qui fera 5 kilos de moins, il va gagner. Donc c'était lui qui était le coureur, compte tenu de sa condition physique aujourd'hui, compte tenu du fait qu'il a déjà le maillot vert sur le dos.
Et qu'il en a déjà gagné une.
Et qu'il en a déjà gagné une, donc il est totalement libéré, lui et son équipe. Et d'ailleurs, on l'a vu dans le final être relativement serein, et c'est tous ces éléments-là qui m'ont amené à dire, celui qui a aujourd'hui les qualités pour, d'autant qu'on avait vu la ligne d'arrivée, hein, dans ce type d'arrivée, eh bien c'est lui. Alors il a un petit défaut, mais ça c'est logique, c'est qu'au moment du démarrage, il n'a pas la puissance d'un Philipsen. Donc Philipsen, on l'a vu dans le sprint, l'a remonté dans un premier temps, et puis son accélération
est plus endurant. Alors plus endurant peut-être que Philipsen qui a plus de.
Oui, mais enfin il a un peu moins de puissance au démarrage. Donc ça part plus loin. Mais une fois qu'il est lancé et à chaque fois, enfin, sur les deux étapes qu'on vient de le voir gagner, les deux fois à quelques mètres de la ligne, il a une accélération finale que les autres n'ont plus.
Et pourtant, il n'a pas vraiment d'équipier pour l'emmener dans les sprints. Il a eu une demande aujourd'hui.
Aussi.
Il a très bien. Mais parce qu'il disait dans l'interview, en fait, qu'il était dans la roue des coureurs Cofidis. Enfin,
ouais.
C'est vraiment.
Non, mais là, ça lui a facilité le boulot aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Il dit merci Cofidis, parce qu'il était vraiment en position idéale. Et même d'ailleurs, Brian Coquart s'en est rendu compte qu'il fallait être à cette place-là pour ce sprint. Mais dans son équipe, il a Hugo Page, il a Mike Tennyson, il y a Garben Thyssen, qui sont trois garçons très très rapide et qui favorise aussi ses arrivées.
Mais en fait, le sprint, il s'est un peu fait en deux temps, on va dire. Il y avait cette cuvette avant le kilomètre et là, son équipe l'ont très bien emmené. Mais après, bien sûr, ils étaient un peu justes. Il y avait Hugo Page et Rex notamment qui étaient là pour l'emmener. Après, ils n'étaient plus là et c'est là où il est retombé en fait dans la roue des Cofidis. Et finalement, c'est Cofidis qui l'ont vraiment lancé vers la victoire. Parce que quand vous avez un sprint comme ça en cuvette, souvent, bah, si vous êtes placé en bas de la cuvette, après, vous faites remonter par l'aspiration des autres coureurs et vous pouvez vous faire coincer. Donc lui, en fait, finalement, il a eu un peu deux équipes pour l'emmener. D'accord. La sienne en bas de la descente juste avant le kilomètre et Cofidis, bien sûr, involontairement, qui l'ont emmené vers la victoire.
Ceci dit, si les Cofidis l'ont emmené, ils ont aussi emmené Philipsen.
Ah, bien sûr.
Par voie de conséquence, puisqu'il était dans la roue.
Ils étaient trop vite placés, trop vite. Ils sont sortis du bois.
On en parlera tout à l'heure avec l'interview de Brian Coquart. On va tout d'abord écouter donc le héros du jour, nouveau héros, donc Guirmay. Deux victoires d'étape sur les routes de ce Tour de France. Et évidemment, un grand sourire sur le visage du coureur de la formation Intermarché.
C'est incroyable de gagner deux fois. Je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce que je peux dire ? Merci Dieu, merci pour tout. Et je pense que je dédie cette victoire à ma mère, à mon père. Ils ont cru en moi. Ils m'ont donné tout le soutien pour devenir cycliste, pour devenir professionnel. Donc ouais, je veux juste dire merci beaucoup, ma famille. Je suis tellement fier.
On a vu des images venir d'Érythrée après sa première victoire, où c'était l'euphorie totale. J'imagine que le pays doit être dans un état...
Ouais,
c'est le héros du pays. Hein.
C'est, ouais, c'est marrant, c'est ce que j'allais demander. Moi, j'en ai pas trop vu encore des images, et je me suis dit, ça doit être la folie complète.
Là, aujourd'hui, tu veux dire ?
Ouais, bah, après sa première victoire,
sa deuxième victoire. Il y avait des trucs
Moi, j'ai rien vu passer, c'est pour ça que j'allais demander.
Il y a une vidéo, effectivement, avec des gens qui filmaient un grand écran, et beaucoup de gens qui regardaient. Oui, c'était la folie.
On se rappelle quand il avait gagné son étape au Tour d'Italie, il était rentré comme le président du pays là, dans une voiture un peu décapotable. Il y a de la foule de partout. Là, j'ose pas imaginer.
C'était mis un petit bouchon dans l'œil, un petit bouchon de Prosecco dans l'œil aussi.
J'ose pas imaginer le retour au pays après le Tour.
Non, mais c'est vrai que là, il y avait des images assez incroyables. Alors, j'ai pas vu là après la deuxième victoire, mais après la première victoire où on voyait effectivement le dernier kilomètre et il sentait le pub parce que le public a l'air d'être malgré tout connaisseur. J'imagine, je dis malgré tout parce que c'est pas non plus un grand pays de vélo. On va pas se mentir. Donc ils avaient l'air de vraiment de bien le suivre et de voir pendant le dernier kilomètre, ils étaient là, Gamaille, allez, comme ça. Et puis tout au bout, ils exultent comme nous on exulterait si on gagnait la Coupe du Monde de foot ou quand on a gagné la Coupe du Monde de foot. C'était vraiment incroyable à voir.
Bien sûr, mais nous on a la France, l'Italie, etc. On a plusieurs coureurs qui sont capables de gagner des courses. Donc finalement, les supporters, ils se divisent un peu entre tous ces coureurs-là. Que là, c'est tout pour un seul coureur. C'est un pays qui est derrière un coureur. C'est que ça doit être quand même incroyable. Et puis pour avoir fait des courses en Afrique, notamment le Tour du Gabon, tu l'as dit Arnaud, ils n'ont pas forcément une culture cycliste, mais ils sont complètement fous de vélo. Hein. Nous, c'était, je l'ai fait en 2009, je serais cru des endroits sur le Tour de France. Et puis ils veulent faire pareil. Alors, petite anecdote, par exemple, eux, ils prennent des seaux, puis ils vont dans le fossé prendre de l'eau pour te le jeter dessus parce qu'ils voient les gens qui t'arrosent sur le Tour de France. Mais là, d'une, faut fermer la bouche parce que si t'avales l'eau qu'ils te donnent, t'as la diarrhée pendant 10 jours. Et puis il y a un peu de terre, il y a tout. Mais l'ambiance est complètement barge. Et quand il y aura les championnats du monde sur le continent africain, ça va être
Rwanda, en 2025, quoi, l'année prochaine.
Je veux pas dire de bêtises, il est qualifié pour les Jeux Olympiques, Bilal Garmaï.
Et je me posais
la
question.
Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui va être à prendre en compte. Parce qu'il pourrait potentiellement, sur le parcours de Paris, s'exprimer. Hein,
je vois pas pourquoi il n'aurait pas au minimum un représentant.
Oui, non, moi non plus, je vois pas pourquoi. En plus, ils en
attendent. D'autant qu'il a déjà gagné Grand Velvet Game, une étape sur le Tour d'Italie pour prendre les deux principales victoires qu'il avait.
Bon, en tout cas, ils avaient deux cyclistes lors des Jeux Olympiques de Tokyo.
Ils en auront au moins un.
Gebrez Gabière qui était là.
On rappelle que Carapaz, par exemple, lui ne participera pas aux Jeux Olympiques parce qu'il a été devancé par un autre coureur équatorien. Mais en revanche,
il n'y a qu'un seul coureur sélectionné.
Un coureur dans les petites nations du vélo. Oui,
je voulais juste, donc en fait. J'ai fait cette réflexion parce que je faisais une autre recherche. On dit l'Érythrée, c'est pas un pays de cyclisme, mais c'est tout court pas un pays de sport en fait. Il y avait 13 athlètes seulement aux Jeux Olympiques de Tokyo du côté de l'Érythrée. Il y en avait 9 en athlétisme, 3 en cyclisme et 1 en natation. Donc voilà, ça veut bien dire quand même ce que ça veut dire quand tu dis il est président de son pays. Voilà, c'est vraiment. Oui, il fait rayonner là, son pays. On parle de son pays à l'international pour de bonnes raisons cette fois-ci parce qu'on rappelle quand même que c'est l'une des dictatures les plus sauvages de la planète et ça, c'est le côté un petit peu sombre de ce pays.
Voilà, Binyan Girmay qui s'impose. On va écouter l'un de ses équipiers, le français Hugo Page, évidemment, qui fait chambre avec Girmay, et qui connaît bien le bonhomme et qui, justement, fait rayonner cette équipe Intermarché. Hugo Page.
Bah, Bini, justement, c'est ça qui est un peu étrange. C'est pas la personne. Ouais, on peut pas. Quand on le voit comme ça, on pourrait penser que c'est pas un sprinter. Il est vraiment calme, détendu. C'est aussi la bonne raison. C'est une bonne raison pour laquelle je suis dans la chambre avec lui, c'est que ça me canalise pas mal aussi. Et voilà, quand on arrive dans la chambre, on est juste posé, on parle pas de vélo. J'essaye aussi de lui faire penser un petit peu à autre chose. Et voilà, c'est juste la bonne ambiance qui règne. On a trouvé la bonne recette avec ça.
Voilà Hugo Page donc qui fait chambre avec Girmay, le nouveau héros de ce Tour de France. 2 victoires d'étape, il est le premier pour l'instant à avoir réussi cet exploit. Il y en aura peut-être d'autres d'ici l'arrivée à Nice dans un peu plus de 2 semaines maintenant. Et au classement du maillot vert, eh bien Girmay accroît son avance. 216 points ce soir contre 128 à Philipsen. Ça commence à devenir sérieux, Jérôme, là. Hein, 88 points d'avance. Il ne reste pas non plus des masses d'étapes pour les sprinteurs. On en a dénombré 4. Après, il y a effectivement d'autres étapes où certains sprinteurs pourraient se mêler à la bagarre dans un groupe de baroudeurs. Pourquoi pas Guermail, justement ?
Bien sûr.
À Barcelonnette, par exemple.
Voilà, par exemple, il a toutes les qualités pour. Mais si on prend une étape comme aujourd'hui, par exemple, le maximum de points que vous pouvez empocher, c'est 70. 20 au sprint intermédiaire, 50 à l'arrivée. Donc il a déjà une étape, on va dire, d'avance sur Philipsen, à condition que Philipsen prenne le sprint intermédiaire et gagne l'étape à la fin. C'est pour vous dire le gap qu'il y a entre les deux premiers du classement général. Bien sûr, il reste encore beaucoup d'étapes. Tu l'as dit, il y a des points à prendre sur les étapes de moyenne montagne, on va dire, voire de montagne s'il se glissait dans une échelle. Mais là, franchement, au bout de 8 étapes, il faudrait regarder s'il y a déjà eu autant d'écart. Certainement que Pierre-Yves, tu l'as peut-être fait, ou peut-être un Philipsen qui avait gagné beaucoup d'étapes en début de tour, ça creuse vite. Mais franchement, 88 points d'avance après 8 étapes, c'est énorme.
Il est à relativiser ce classement parce qu'il y a un garçon qui a quitté le tour aujourd'hui et qui devrait être placé et qui aurait pu être devant Guermail aujourd'hui, c'est Mats Pedersen. Et c'est pour ça aussi qu'on a un écart très important.
Ouais, parce que Philipsen a été déclassé aussi. Hein. Il a une étape où il a été déclassé, donc il serait moins loin, évidemment, s'il avait pu prendre les points de cette étape où il a été déclassé. Philipsen, une nouvelle fois battu, c'est le Poulidor 2024, Philipsen. Philipsen, Jasper Disaster la première année, il ratait un peu tout. Philipsen, le Master l'année dernière. Et Philipsen, cette année, c'est un peu en montagne russe pour lui, son aventure sur les routes du Tour de France. Il est étonnant quand même, il n'y a pas de stabilité au sommet, il est très très bon, c'est sans doute un des meilleurs au monde, mais voilà, cette année, c'est pas ça.
Jusqu'à maintenant, il était le meilleur, pas seulement d'ailleurs parce qu'il dominait les étapes du Tour de France, mais aussi parce qu'on le retrouvait sur le podium d'un Paris-Roubaix. Ce qui donnait une certaine dimension supplémentaire à ce coureur. Et puis cette année, il n'y a rien qui rigole. Une première gamelle, un déclassement. Il est un petit peu moins bien, il est moins serein. Il doute, y compris Van Der Poel, qui est aussi moins bien et qui doute un peu. Il suffit que vous avez deux ou trois coureurs qui ne peuvent plus assumer avec la même sérénité, avec la même confiance que l'an dernier. Eh bien, au lieu de faire premier avec deux longueurs, on fait une fois deux, une fois déclassé. Et puis, il y a des fautes de concentration qui se font. Et voilà. Mais c'est l'histoire de tout le sport.
Hein. Et puis, un garçon qui est là et qui n'était pas là, c'est Guermail. Il est premier.
Et Pedersen, qui était très présent aussi. Ouais. Malheureusement, il a quitté le tour.
À 10 reprises depuis qu'il court le Tour de France, il a terminé deuxième d'une étape au sprint, Jasper Philipsen. C'est monstrueux.
Mais vous...
Combien ?
10 fois. C'est la 10e fois aujourd'hui qu'il termine deuxième.
Ça me fait penser à Sagan, moi. Ça me fait penser à Sagan qui, pendant des années, faisait des places de deux et puis qui, d'un seul coup, s'est mis à tout gagner aussi.
Mais vous voyez quand même la puissance du Tour. On est au Tour de France. Ouais. Il a déjà fait deux fois deuxième. Il a gagné Milan-San Remo. Il fait deuxième de Paris-Roubaix. Ouais. Et on est en train de dire est-ce qu'il est sur le déclin ?
Parce qu'on... Non, pas sur le déclin.
Non, mais c'est un peu ça.
Mais non, mais il a gagné six étapes en deux ans. Moi, je pense que ça va tourner. Moi, je suis persuadé qu'il va en gagner.
L'équipe Décathlon à G2R qui faisait un super début d'année et qui allait être jugé sur ces trois semaines. Et pour les coureurs, en fait, c'est pareil. Il fait une saison stratosphérique pour l'instant. Mais au Tour. Il gagne pas et nous on est en train de se dire.
Mais on est en première semaine.
Mais bien sûr, je suis d'accord avec toi.
Mais il y a aussi parce qu'on a aussi évoqué le nom d'un autre sprinter qui n'est pas sur le tour et qui aurait été sans doute un redoutable adversaire pour Sam Guermail, c'est Tim Merlier qui aujourd'hui pour les spécialistes ils sont à touche-touche les
c'est
deux.
Vrai.
Hein.
C'est vrai. Et ça.
Et
ça,
comme Tim Merlier n'est pas là, il est plus sprinter pour tout le monde.
voilà, c'est ça parce que là le focus. Ah non,
comme
le monde
Merlier n'est pas là, Philipsen aurait du tout gagné.
C'est ce qui est annoncé. Heureusement que c'est pas comme ça.
Ah, bien sûr.
Heureusement qu'on a des Guermail, qu'on a d'autres.
L'année dernière, au bout de 4 victoires de Philipsen, on savait plus quoi dire.
On avait plus rien à dire.
J'espère que Guermail va pas en gagner 4.
Et puis entre nous, avoir un personnage comme Guermail qui arrive,
bien sûr,
qui arrive sur ce tour et qui gagne deux étapes, qui est maillot vert, c'est aussi une façon différente de voir le sport, puisque derrière tout cela, il y aura vraisemblablement un développement du sport sur l'Afrique. Du sport cycliste.
Évidemment, oui, parce que c'est un modèle pour tous les Érythréens et pas seulement pour tous les Africains de voir comme ça un garçon capable de remporter des étapes sur la plus grande course au monde. Ça va peut-être susciter quelques vocations dans ce grand continent qui brille dans d'autres disciplines. Évidemment, on pense à l'athlétisme et pourquoi pas le vélo désormais grâce à la tête d'affiche qui est Guermail. Le premier Français, c'est donc Anthony Turgis qui lui termine 7e. et qui a évoqué ce sprint un peu particulier au micro d'Arnaud Souk. On écoute Anthony Turgis.
Bon, Anthony, racontez-nous un petit peu ce sprint qui était un petit peu particulier. Vous êtes le meilleur français de l'étape. Comment c'était ce sprint?
Oui, c'est un sprint très rapide sur l'approche. Après, c'est vrai que voilà, c'était par rampe, donc on a vite vu des lanceurs s'écarter, on s'est vite retrouvé entre sprinteurs. Et la dernière rampe, quand on s'est tous positionnés, c'était vraiment un effort vraiment long. Donc voilà, j'ai essayé de me replacer dans la meilleure roue, dans la meilleure position. Ça m'a coûté peut-être un petit chouïa quand ça a lancé, mais je voulais vraiment être là parmi la première vague. Et voilà, je sprint sur toutes les étapes, je me rapproche de plus en plus sur l'avant-poste, donc pour moi c'est une très bonne chose.
Anthony Turgis, c'est une très bonne chose, nous dit-il. Il se rapproche de la tête de course, septième aujourd'hui. C'est pas un sprinter classique.
C'est pas un sprinter pur, non. C'est pas un sprinter pur. C'est un garçon qui a quand même déjà terminé quatrième du Tour des Flandres. Quatrième ou deuxième, j'ai un doute. Quatrième, je crois, du Tour des Flandres. C'est un garçon, bon, Cyril le connaît bien. Il passe peut-être, et on le dit, c'est vrai, tous les ans, Anthony, à côté d'une grande carrière, parce qu'on sent que c'est un garçon qui a énormément de jus dans les pattes, et malheureusement, il n'arrive pas à concrétiser. Au plus haut niveau, alors peut-être même moi j'imagine, et d'ailleurs je vais poser la question après, potentiellement demain, je sais pas ce que t'en penses Cyril, pouvoir tirer son épingle du jeu, parce qu'il sait y faire aussi hein, sur ce genre de course.
Oui, il a un gros handicap, je suis désolé de le dire comme ça, je ne peux pas faire que des amis, il est pas dans la bonne équipe. Il est tout seul, il a pas, bon, l'équipe elle est sympa, mais les qualités d'un coureur qui fait quatrième d'un Tour des Flandres,
deuxième d'un San Remo.
Et deuxième d'un Milan-San Remo. Je suis désolé, il doit être leader avec une équipe autour de lui. Il ne l'a pas. Et là, aujourd'hui, si vous regardez le sprint, il est placé, idéalement placé, et il se fait sortir, d'abord parce qu'il est tout seul, et il se fait sortir par qui ?
Philipsen.
Par Philipsen. Philipsen qui passe le long des balustrades, lui ferme la porte. Il est obligé, il a failli d'ailleurs toucher à droite, est obligé de ralentir alors que le sprint est lancé, et il va être obligé de relancer pour repartir sur la droite. Dommage qu'il n'ait pas été dans la roue d'ailleurs de Brian Cocquart, mais il n'en était pas loin, il était à quoi, à deux positions. Aujourd'hui, s'il avait eu vraiment quelqu'un pour le placer, il fait top 5, ça c'est sûr. Il fait pas 8e. Mais je suis désolé de le dire, il n'a pas l'équipe par rapport à son talent.
Mais pourquoi il n'est pas bien entouré ?
Ah non, mais après, c'est son choix. Je ne juge pas. Je dis, il n'est pas dans la bonne équipe par rapport à un talent. Après, c'est lui qui fait ses choix.
Anthony Turgis, 30 ans, quatrième effectivement du Tour des Flandres, deuxième de Milan-San Remo, à qui il manque une grande victoire de référence. Peut-être l'obtiendra-t-il d'ici la fin de sa carrière, mais bon, il a déjà 30 ans.
Arnaud. Juste un tout petit mot, parce qu'au bus de Total Energy, on a aussi aperçu Sandy Dujardin en pleurs, vraiment effondré. Il a chuté, apparemment, il s'est brisé le poignet. Et Jean-René Bernodeau semblait dire que ça serait très très compliqué de repartir demain. En plus, sur les chemins blancs, ça ne va pas forcément être très facile.
C'est pas le jour.
Il était effondré, Sandy Dujardin, et c'est vraiment terrible, il était en pleurs, c'était une image terrible.
Terrible donc pour Sandy Dujardin qui ne prendra vraisemblablement pas le départ de la 9e étape demain, on en reparlera de cette étape. Déception aussi pour Brian Cocquart qui était en tête en début de sprint, emmené par l'un de ses équipiers, en l'occurrence Alex Zingle, qui s'était fait taper sur les doigts par son manager il y a quelques jours pour avoir osé prendre une échappée. Là, il était dans le coup, Zingle, mais ça n'a pas suffi, Jérôme, pour Brian Cocquart. Pour qui on croyait vraiment que ce serait une étape pour lui. On parlait des sprinteurs légers, il en fait partie. Un sprinteur qui sait prendre ce qu'il sait faire, enfin qui sait très bien sprinter en montée, mais malheureusement il a manqué quelque chose. Panne de jambes hein, sur la fin du sprint.
Panne de jambes, je pense pas. Je pense qu'il a été lâché un tout petit peu trop tôt. Le profil lui convenait parfaitement avec cette arrivée en montée, mais il a été obligé de lancer son sprint à 250 mètres de la ligne quand Zingle s'est écarté. Et puis 250 50 mètres de sprint, si c'est comme l'étape que Groenewegen gagne, bah c'est bon, vous pouvez les tenir, ça va très vite. Mais là, là avec montée, une pente à 6%, ouais, ça devient un sprint qui est ultra long et là, ça passe pas. D'ailleurs, on a vu quand il s'est fait, quand il a commencé à se faire déborder à 100-150 mètres de la ligne, il s'est écarté et il finit au-delà de la 30e place alors qu'il était premier à 200 mètres de la ligne encore, pour vous dire qu'il a complètement coupé son effort. Est-ce qu'on peut reprocher quelque chose à l'équipe Cofidis? Après coup, c'est toujours facile à dire. Ils l'ont bien emmené, il me l'a manqué un gars. Alors, il y avait Alexis Renard, Axel Zinglet et Brian Cocard. Il a peut-être manqué un coureur pour que Renard et Zinglet puissent prolonger leur effort un peu plus loin et que Brian puisse sortir qu'à 150 mètres de la ligne. Mais voilà, après coup, c'est difficile à dire. Je vous rappelle, il y a cette cuvette, ils ne sont déjà pas fait enfermer là. Et puis Zinglet, tu l'as dit, s'est fait taper sur les doigts parce que, pas vraiment pour l'échapper, mais parce qu'il n'était pas là pour emmener Cocard au sprint. Là, il a été là un peu trop tôt. Voilà, faut qu'il règle un petit peu la mire, les Cofidis.
T'as vu, Jérôme, qui termine premier pour l'équipe Cofidis aujourd'hui?
J'ai pas vu.
C'est Guillaume Martin qui termine bien. Je trouve ça pas si anecdotique que ça, en fait. 22e, parce que, ouais. Comment ça se fait que Brian Cocard termine 37e alors qu'il est en tête à 300 mètres de la ligne?
Il s'est relevé.
Il a complètement coupé son effort. Mais bon, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui finalement
ne fonctionne pas?
Et pourquoi Guillaume Martin?
Martin n'est pas dans le train. Il n'est plus dans le coup dans le classement général.
Bon, mais
qu'il aille emmener le sprint.
Merci,
surtout
Thierry,
dans une
boxe. C'était un petit peu le fond de ma démarche. Okay.
Ouais, alors ça, oui.
Ah oui, mais quand t'es leader, certains leaders comme Van Der Poel.
Non,
qui,
oui et non. Pourquoi? Parce que moi, j'étais un peu dans la. Alors, un plus petit niveau, mais dans la situation de Guillaume Martin, des fois, un grimpeur qui ne s'est pas trop frotté, qui n'a pas trop de puissance, c'est plus un obstacle qu'un atout pour une équipe.
Martin, il frotte bien. Il se fait pas piéger comme ça dans les bords.
Oui, mais
même
là,
en étant tout seul.
Mais là, il revient, regarde le dernier kilomètre, il est peut-être 40e, hein, Guillaume Martin.
Ah bah oui,
45e.
Mais ça,
c'est une faute. Il remonte parce que attends, c'est la
montée. Attends.
Ça veut dire qu'avant, il n'était pas capable de frotter.
Non, attends, t'as Vasseur qui dit... on a un sprinter, on travaille pour le sprinter.
Non, mais il y en a d'autres que Guillaume Martin qui doivent être là.
Bah, il
doit y avoir Guillaume Martin.
Non.
Non mais Gachka, il avait déjà sauté.
Mais leurs vacances.
Izaguirre et Rada.
Moi, Jérôme, je comprends pas pourquoi.
Pitalgaard qui a fait devant Brian Cocard l'autre jour, son poisson pilote qui termine devant lui l'étape où Groenewegen gagne. Bah voilà, la pièce manquante, elle est là. C'est lui qui manque, c'est tout. C'est pas Guillaume Martin.
Non,
je suis
que
désolé.
Guillaume Martin reste sur son lit tranquillement.
Non, s'il peut,
la télé,
bien sûr que s'il peut aider, il doit y aller. Mais si d'un coup il a pas assez de puissance parce qu'il se retrouve premier, qu'il ralentit tout le groupe,
quand tu fais le classement général du tour pour être dans les 15 premiers,
t'aurais dit quoi? T'aurais dit c'est n'importe quoi de mettre Guillaume Martin. Regardez le chrono qu'il a fait, il a rien dans le sac et vous le mettez dans un train. Voilà ce que t'aurais dit s'il avait ralenti le train Cofidis.
Non, les trains étaient complets, donc tu pouvais pas le mettre dedans.
Peut-être que le problème de cette équipe, c'est des coureurs qui seront ailleurs l'année prochaine.
Peut-être.
Donc, Guillaume
non, ou peut-être que le vrai problème, c'est que les coureurs n'ont pas apprécié les déclarations de leur manager.
Oui. Ah. Enfin, attends, Cocard, tu vas pas me dire qu'il coupe son effort parce qu'il a pas apprécié la...
Non,
mais ça a rien à voir ce que je dis.
Non, tu parles de Guillaume Martin.
Non, je parle Cédric Vasseur.
Oui,
quand
on a compris ça.
Allumés,
qui n'a pas apprécié ça alors?
Les coureurs.
Et qui aurait fait justement, qui aurait pris
mais
des mesures de rétorsion aujourd'hui?
Mais parce que dans l'état d'esprit collectif,
c'est désorganisé.
C'est désorganisé.
D'accord.
Okay. Qui vous dit que Zinglet, s'il n'a pas la pression aujourd'hui parce qu'il s'est pris, s'en est pris plein la gueule, est-ce qu'il n'est pas un peu plus serein? Est-ce qu'il n'attend pas un petit peu plus? Est-ce qu'il n'y a pas un autre coureur qui a envie de venir? Non. Vous savez, une équipe, ça fonctionne avec des règles très simples. Hein. C'est où l'ambiance est bonne, où tout le monde s'aime et on va au charbon à 100%, où ça se délite et à partir de ce moment-là, grâce à Dieu.
Voilà, au pied de la Croix de Lorraine, notre druide fait référence à son créateur. On va écouter Brian Cocard, justement, un peu déçu forcément, lui qui n'a pas pu aller jusqu'au bout et espérer remporter cette étape, ce qui aurait été son premier succès sur les routes du Tour. Brian Cocard.
On était en perte de vitesse, on s'est un peu enflammé. On était trop tôt devant et j'étais obligé de lancer un peu de loin. J'étais bien, mais ouais, c'était trop tôt, surtout une arrivée comme ça. Je pense que Grima était dans ma roue et c'était la meilleure position parce que j'ai à 250 mètres, j'étais obligé d'y aller, mais il y avait encore de la pente et voilà, c'est... Je suis déçu. C'est comme ça. Bah, à 500 mètres, Axel commençait déjà à montrer des signes de faiblesse. Ça faisait déjà un moment qu'il était devant. Et, et on perdait de la vitesse et voilà, ouais, on a fait, mais malgré tout, il a fait un super boulot, hein, c'est pas du tout péjoratif, ni Alexis, on était trop tôt devant, c'est bien évidemment une déception, on était très, très motivés pour aujourd'hui.
Voilà, Brian Coquard déçu, on le sent dans sa voix, donc pas de victoire d'étape et il s'est relevé, donc il termine, vous disiez, 37e hein, de l'étape.
Oui, mais ça n'a plus d'importance, à partir du moment où il explose, qu'il fasse 25 ou 37 ou 75e, ça n'a plus d'importance, c'est où on joue la gagne, où on la joue pas. Mais quand Brian dit « on était trop tôt devant », c'est la faute de personne, c'est à eux, hein.
Ok, on verra pour Brian Coquard, il lui restera quand même quelques occasions de briller d'ici la fin de ce tour. Tu voulais dire un truc, non ?
Oui, juste parce qu'on l'évoquera pas longuement, mais signaler la performance d'Abrahamsen qui depuis le début...
On va en parler un petit peu.
Un tout petit peu. Ah d'accord.
Juste dans un instant.
Ah bah très bien.
Oui, okay. Pendant 150 bornes.
Je suis le conducteur, s'il te plaît.
Mais tu conduis trop vite.
C'est bien. C'est pas vrai en plus, je me suis calmé. Allez, 19h32, reviens dans un instant sur RMC 100% route pour la suite de l'After Tour.
RMC jusqu'à 20h,
l'After Tour.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Ah le patron, c'est les rois.
Lidl ?
Eh oui, les rois de la bicyclette cet été sur les routes de France.
Mais comment ça ? Tu dérailles ?
Oh non patron, ça roule. Lidl est co-sponsor de l'équipe cycliste Lidl Trek.
Quoi ? Lidl co-sponsor de l'équipe Lidl Trek ? Où j'en perds les pédales ?
Ah ça, question sponsoring, ils en connaissent un rayon.
Là t'as intérêt à mettre la pédale douce, hein. T'es mal. Et tu l'auras pas, Béo. Volé.
Lidl, co-sponsor de l'équipe cycliste Lidl Trek.
RMC, 19h-20h, l'After Tour.
Christophe Sessieux.
En direct de Colombey, les deux églises, au terme de la 8e étape du Tour de France, remportée par l'Érythréen Binyan Girmay. Une étape marquée par un long raid en solitaire de celui qui porte depuis la première étape le maillot à poids de meilleur grimpeur, Jonas Abrahamsen, 169 km. Tout seul, il est pour le moment l'une des révélations de ce Tour de France. Un garçon au physique particulier, hein, pas du tout taillé comme les brindilles du peloton. C'est quand même assez paradoxal.
Mais il a presque un physique de sprinter en fait. Hein.
Bah oui.
Ouais. Et il a pris 20 kilos en 2 ans.
Pour aller plus vite dans les descentes ?
Pour être plus puissant.
Pour être plus puissant.
Ouais. Exactement.
Bah oui, c'est quand même à l'encontre de tout ce que l'on nous dit, enfin de ce qu'on vous dit, messieurs les coureurs, pour devenir un très bon point. Le rapport poids-puissance dont parle toujours Cyril, lui, ça n'a pas l'air de l'embêter, le rapport poids-puissance.
Ouais, alors on regardera quand même dans les étapes de haute montagne, c'est 20 kilos, si pour traîner la charrette, ça va être un peu plus dur. On rappelle qu'il avait gagné quand même l'étape du Tour amateur qui arrivait en haut de l'Isoire. Alors c'est amateur, mais quand il avait ses 20 kilos de moins, il grimpait quand même pas mal.
En 2017.
Exactement.
Juste une petite stat, donc Christophe, on a, après 8 étapes, il a passé 12h, 9 minutes et 30 secondes échappées, c'est-à-dire 38% de son temps de course. Il n'aime pas les autres, en fait.
Il n'aime pas, non, il n'aime pas courir en peloton, il aime bien tout seul.
Il est claustrophobe.
Heureusement qu'il est là.
Et c'est bien le seul dans ce Tour de France, on a l'impression d'ailleurs, hein, parce que les échappées, ce n'est pas, hein, c'est pas la particularité de ce Tour de France.
Comme deux échappées qui sont arrivées au bout.
Ouais, on a démarré fort. Ça a démarré fort avec deux échappées qui ont été au bout sur les deux premières étapes.
Les IF, les deux IF qui se relèvent, on se demande pourquoi. Jordan Jegat qui sort, qui se relève parce qu'il ne peut pas rentrer.
Quentin Paché, Romain Grégoire, c'était pareil. Ouais, ils sont partis.
Mais les IF, on ne comprend pas bien la stratégie.
Bah, je pense qu'ils essayaient d'être. Enfin, ils pensaient être plus que ça. Et puis, à 3, ils se sont dit.
Ils avaient prévu de partir plus nombreux aussi, les IF. Ils avaient prévu de partir avec Bétiol, notamment.
Ils voulaient faire un chrono par équipe.
Ils renoncent vachement vite.
C'est ce que Bétiol avait annoncé ce matin. Ils voulaient faire un gros coup. Ils voulaient partir assez nombreux dans l'échappée. Et là, ils ont renoncé manifestement parce qu'ils espéraient qu'un coup un petit peu plus gros parte.
Ouais, il faudra attendre les étapes de baroudeur, les véritables étapes de baroudeur pour qu'on ait des gros groupes d'échappés. Pour l'instant, c'est 1-2 maximum. C'est pas.
Non,
c'est
mais
pas
sauf qu'ils se seraient retrouvés à 3 ou 4 devant. Il y aurait peut-être eu des réactions derrière du peloton et ça aurait bagarré et ça bagarre plus depuis le début de ce tour.
Alors, avant d'évoquer l'étape de demain, revenons maintenant sur un fait de course. C'était lors du chrono d'hier où le coureur français Julien Bernard de l'équipe Lidl Trek a écopé d'une amende de la part de l'UCI pour avoir osé s'arrêter en pleine course pour embrasser son épouse et son petit garçon. Et ce genre de geste ne plaît pas au triste sire de l'UCI, ses commissaires qui sont en quelque sorte des ayatollahs du vélo et qui lui ont infligé une amende de 200 francs suisses. parce que pour avoir donné une mauvaise image du sport. Je voulais juste avoir votre avis là-dessus. Je sais
ridicule.
Que ça a beaucoup fait parler dans le peloton et ridicule. Surtout dans le peloton des
et pas dans le peloton, partout.
C'est
sur
c'est
les réseaux
affligeant.
Sociaux également.
Ouais, c'est une honte. C'est une honte. Il y a pas d'autre mot. Et puis Julien Bernard, je crois qu'il en a un peu marre de parler de ça, mais il a dit si c'était à refaire, je paierais 200 francs tous les jours pour revivre les mêmes émotions. Voilà. Alors les commissaires, eux, ils se justifient. J'ai demandé un peu des informations. Voilà, les commissaires, en fait, ils ont divisé en deux. Alors bien sûr, le côté humain, ça, pour la beauté du sport et tout, ça leur pose pas vraiment de problème, malgré que c'est écrit dommage à l'image du sport. C'est ça, en fait, qui pose problème. Eux, les arbitres, ils sont uniquement focalisés sur le côté sportif. Ils ont mis en évidence que ça aurait pu porter préjudice aux coureurs qui suivaient Julien Bernard au chrono. Du fait que ça, mais c'est n'importe quoi. Il y a des, comme disait Cyril, on en parlait en antenne, il y a des oreillettes, tu sais les écarts, etc. Il ne s'est pas arrêté un quart d'heure, hein, Julien Bernard. En plus, il est parti vite, il a dit, pour prendre un peu d'avance. Il s'est arrêté 5 secondes et il a tracé. Donc pour moi, c'est plutôt bonifier le sport. C'est donner des émotions sportives
oui,
que ça.
Donc, on avait tous les poils sur les bras quand on a vu l'image, le sourire, la banane. C'était tellement sympa de le voir embrasser son petit garçon. Il faut quand même donner un côté humain au sport.
Bien sûr. On dit toujours que c'est des robots en plus. Ah, les watts, les ordinateurs, les oreillettes, les machins. Puis quand on a un truc un peu plus humain, bah boum, on se fracasse et on met une amende.
Ça me revient comme ça, mais il fut pas un temps où certains coureurs sortaient du peloton pour aller voir leur famille.
T'avais des droits de sortie.
Et Magnus Cort Nielsen, il a mis une photo sur les réseaux sociaux. Le soir même, en haut du Galibier, lui, il avait embrassé sa femme aussi. Il a mis la photo. Il a dit bah, moi, je suis passé au travers des gouttes. L'UCI aurait pu mettre 200 francs suisses à moi aussi.
Je ne sais pas si Cosnefroid avait pris une amende l'année dernière ou il y a deux ans.
Mais ça, c'est une amende de son sponsor, peut-être.
Il n'était pas content, son patron d'équipe.
Ce qui est assez amusant dans cette affaire et très triste, c'est que on met une amende en disant c'est pas bon pour l'image du cyclisme. Or, tout le monde est d'accord pour dire que c'était formidable pour l'image du cyclisme.
L'image, elle est virale.
Et le règlement ne dit rien. Ils ne sont pas appliqués sur un règlement. Ils sont uniquement sur leur perception, sur ce qu'ils veulent que soit le Tour de France. Mais le Tour de France, c'est la fête populaire. Et on était en pleine fête populaire. Avec tous les supporters de Julien, ce qu'ils ont fait là, pour moi... intellectuellement et malhonnête.
Mais ils ont eu
parce qu'ils vont jusqu'à justifier que ça allait gêner la course. Attends, quand on est dans un contre-la-montre, il y a les radios, vous avez Radio Tour, vous avez tout. Vous savez où sont chaque coureur, le coureur qui est devant et le coureur qui est derrière. Et puis après, on vous dit, pour des questions de sécurité.
Et si
dès qu'il y a un problème, on met, hop, c'est pour la sécurité. Cyril, mais ils sont malhonnêtes intellectuellement.
Si on veut extrapoler, c'est comme quand il y a des changements de vélo. Parfois, les coureurs, ils changent de vélo sur le contre-la-montre. Combien de temps ça dure? Ça dure 15 secondes et on n'argue pas des raisons de sécurité. Non, mais sincèrement, on n'argue pas des raisons de sécurité.
Ils ont eu du mal à justifier auprès de Julien Bernard au départ qui a été les voir. Hein, quand même, ça bégayait un peu du côté des commissaires. Et puis en fait, atteinte à l'image, c'est vraiment un fourre-tout ça. Tu sais pas vraiment ce que c'est.
Tu
commences à pisser, il y a un spectateur, ça atteint à l'image. Tu t'arrêtes embrasser ta femme, ça atteint à l'image.
Tu regardes un bidon,
sur un écran géant les 300 derniers mètres comme à la victoire de Cavendish, ça atteint à l'image. C'est vraiment un fourre-tout.
Mais qu'est-ce qu'on veut que tout soit accepté? Mais alors, faut virer les spectateurs. C'est tout.
Ça va pas tarder.
En fait, on ne veut plus de spectateurs, on ne veut plus de convivialité, on ne veut plus de bonheur, on ne veut plus de joie, on ne veut plus rien, on ne veut plus d'émotion. On veut uniquement de la télé et des marques et du business. Point. Mais je dis que les commissaires sont complices de la mort du cycliste s'ils continuent dans ce sens-là.
Waouh, l'édito du druide en colère ce soir, il est très colère. Qu'est-ce qu'ils font avec les francs suisses qu'ils récoltent? Ils s'offrent des gueuletons, ils offrent des bonnes bouteilles.
Attention, déjà d'une, les commissaires, ils sont sur la course, donc ils sont envoyés par l'UCI, mais ils sont indépendants. C'est pas Cyril me fait des gestes. En tout cas, officiellement, leurs décisions, ils sont indépendants. Il y a que eux qui peuvent prendre les décisions sur la course, on peut jamais revenir dessus. Après, l'argent, il va à l'UCI et il est redistribué à toutes les fédérations cyclistes au monde.
D'accord.
Moi, je veux bien, mais je vais apporter quand même un petit commentaire, car vous en avez tous été témoins. Dans le Ventoux, l'affaire Froome, je suis désolé, c'est la première fois, et ça n'a jamais été refait, où on place un coureur à une place qu'il n'a pas faite. Avec l'assentiment de ASO, des commissaires, de l'UCI, c'était une escroquerie. Ah bon. Et ça le reste, et je sais même qu'au niveau d'ASO, il y a des gens qui ne sont pas très fiers de cette affaire-là. C'était bon pour l'image.
C'était peut-être pas la seule escroquerie à l'époque d'ailleurs, mais bon.
Oui.
Chris Froome donc à pied dans le Ventoux. On rappelle, c'était quoi 2015. C'était le 14 juillet.
C'est
le jour de l'attentat à Nice. Terrible attentat, évidemment, sur la promenade des Anglais. On a compris en tout cas que Cyril était remonté contre le monde du cyclisme.
Bonne nouvelle. Je viens de recevoir le communiqué de presse du jour sur l'étape du jour.
300 balles.
Le jury des commissaires
m'a mis une mauvaise note.
N'a mis aucune amende aujourd'hui.
Ah, voilà. Trop sympa. Trop
par
sympa.
Contre, toi, t'as été
donc demain,
t'as
pas de gueule pour les mecs de l'UCI.
Et moi, j'ai été viré du tour. Mais ça se pourrait, hein.
Toi
des choses possibles. Ah ben bah, oui, moi, j'ai vu des gens virer du tour pour des choses pas plus importantes que ce que je dis aujourd'hui.
Mais ça va, méfie-toi, ça va arriver.
Attention, il y a des costauds qui vont venir te chercher et hop, te mettre dehors. Place à la 9e étape, donc demain, 199 km entre 3 et 3. Tracé particulier, car les coureurs, Pierre-Yves, vont devoir emprunter les fameux chemins blancs, les Strade Bianche, on les appelle comme ça en Italie. Ici, on est quand même en France, donc on va dire les chemins blancs. 32 km sur les graviers et dans la poussière, ça risque que de faire des dégâts.
Oui, chemin de Barreauville, chemin de Loches-sur-Ours à Chassenay, chemin des Verrières, les chemins blancs de Champagne que le Tour de France Femmes, vous savez, a emprunté entre Troyes et Bar-sur-Aube, c'était le 24 juillet 2022, vont donc être au menu de ce Tour de France. 14 secteurs gravel, 2000 mètres de dénivelé positif, attention aussi, hein, au bord du lac de la Forêt d'Orient pour un total donc de 32 km. Gravel, c'est gravier en anglais, sur ce sol.
Ah, c'est anglais.
Voilà, c'est pour ça qu'on va dire le gravier. Ouais. Sur ce sol argilo calcaire, un sol, Cyril, de type kimérygien du Jurassique supérieur, formé il y a environ 155 millions d'années.
Ah bah j'ai bien connu leur grand-mère.
Qui nous donne le produit le plus emblématique de la France, le champagne. Parce que finalement, comme lors de Paris-Roubaix, où on emprunte, vous savez, les chemins pavés utilisés par les agriculteurs pour les champs de betteraves, de chicons, de pommes de terre, et bien ici, ces chemins blancs sont utilisés pour accéder aux champs et aux vignes de champagne. Ils sont bien entretenus. Et comme il n'y aura pas de pluie, logiquement, demain, les coureurs seront reconnaissables à l'arrivée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il va falloir être costaud, chanceux et organisé à l'image des Soudal Quickstep qui font venir leurs bénévoles présents sur Paris-Roubaix pour être présents avec des roues de rechange à la sortie des secteurs. Même si Patrick Lefeuvert, patron de l'équipe, expliquait il y a quelques mois « Tout comme je ne pense pas qu'une étape pavée ait sa place dans le Tour de France, je ne suis pas en faveur des chemins de gravier ». Mieux, notre ami, vous en souvenez, Richard Plugueux, le patron de la Visma Liseback, lui, il évoquait une tâche sur un parcours par ailleurs magnifique, car cette étape de gravier n'a aucun sens. On verra demain soir si les patrons des leaders sont toujours fâchés ou rassurés.
Là aussi, ils cassent le jeu. Quoi. Des pisse-froids, exactement. Mais je crois que la maire de Paris avait une autre expression pour caractériser ces gens-là. Votre avis sur cette nouveauté, Jérôme, si tu avais dû faire l'étape demain, est-ce que tu aurais considéré ça comme une saloperie ou alors
en tant que coureur, ouais, c'est clair. J'aurais pas trop aimé ça, comme j'avais pas aimé les étapes pavées, mais parce que c'est pas mon domaine. Maintenant, en tant que
mais ça fait partie aujourd'hui du nouveau cyclisme.
Ouais,
ça,
on est parti de Florence, la capitale de la Toscane, là où il y a les Strade Bianche. C'est quand même pas mal d'avoir les chemins blancs. Bien sûr qu'on allait y venir. Hein, ça fait un petit moment que Thierry Gouvenou il pense à créer une étape comme ça. Ça avait failli se faire en 2019 à Épernay, mais finalement ils avaient jugé les chemins un peu trop dangereux. Donc là, on va voir. Moi, bien sûr que pour nous, en tant que spectateurs, ça va être incroyable parce que je ne pense pas que ça fasse de gros écarts sur ce parcours-là, même si c'est assez dur. Par contre, il y a tout qui peut arriver. Vous avez une crevaison au mauvais moment et un leader, et ça peut être compliqué. Rappelez-vous de Vingegaard sur les pavés. Ils avaient sauvé le tour, mais ça avait été un peu le bazar. Changer de vélo, un vélo trop grand, etc. Donc là, il y a des bénévoles comme à Paris-Roubaix, c'est super. Mais maintenant, avec les freins à disque, aller demander à un bénévole de changer une roue, il lui faut une perceuse, il lui faut une clé Allen, il faut que ça ne touche pas les plaquettes. Vous allez mettre du temps à changer les roues. Donc voilà, tout peut arriver sur cette étape demain.
Cyril ?
Oui, là, je voudrais quand même rappeler que la plus grande partie des routes sur les premiers Tours de France était non pas en gravel, mais en gravier, y compris les montées des grands tours comme le Tourmalet et l'Aubisque.
Il n'y avait
donc
pas
on revient aux origines.
Tiens, on va écouter Patrick Lefeuvert, le patron de Remco Evenepoel dans l'équipe Soudal Quickstep. Il est très remonté, lui aussi, contre cette étape.
Absolument, moi je ne suis pas favorable. Je ne sais pas si ça a lieu dans un grand tour comme le Tour. On a vu quelques années passées au Giro, qui était plein de boue et les derrière bloquaient, tout bloquait. C'est quand même, je ne suis pas favorable, mais bon, qui suis-je? Ce type de gravel, il y a des gravel races, il faut faire ça. Il y a des VTT, il y a des gravel races. Donc, pour moi, ça n'a pas de place dans le tour.
Et voilà, l'avis de Patrick.
Il a le droit d'avoir son avis.
Ah oui, chacun peut avoir son avis.
Il a ses arguments, ses éléments.
C'est vrai,
oui.
Mais sauf qu'à l'époque où il avait une équipe qui était capable surtout de gagner sur les classiques, je pense qu'il aurait été très content que cette étape ait lieu. Sauf que là, il a un coureur qui joue le classement général. Et ça, je pense que ça lui plaît moins.
Mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que, qu'est-ce que
tu fais en fonction de ton intérêt,
C'est de faire perdre, c'est d'avoir un problème et que son leader va perdre du temps. Moi, je l'ai vécu avec Bernard Hinault, où une année, il a fait les écarts, et où une année, il a perdu du temps parce qu'il y a eu des crevaisons, etc. Bon, ça fait partie aussi de la course.
Ne faisons pas passer le fait vert pour ce qu'il n'est pas. Marc Madiot nous a dit tout à l'heure, moi, si j'ai un leader pour le classement général, cette
je suis
étape,
énervé aussi. Oui, non, bien sûr.
Elle m'emmerde.
Mais c'est bien
c'est
ce que j'ai
dit. Oui,
à partir du moment où tu as un leader, tu as peur que...
Ne faisons pas passer le fait vert
pour le râleur de la bande. Tout le monde, ils ne sont pas très contents. Mais nous, on est ravis d'assister à cette étape demain. Donc, on se retrouvera demain après-midi pour l'intégral tour.
Et pensez au public qui a besoin de spectacle.
Mais oui, 15h demain, 15h, horaire exceptionnel pour cette 9e étape du Tour de France. Tiens, malheureusement, cette terrible nouvelle qui nous est arrivée tout à l'heure, la mort d'André Dreyge, jeune coureur norvégien de l'équipe Coop Repsol, décédé après une chute dans le Tour d'Autriche, dans la descente d'un col. Il devait rejoindre l'équipe Jayco Ayula en fin de saison. C'est le deuxième décès d'un coureur professionnel en 2 ans. On se rappelle l'année dernière, Gino Madère. C'est toujours terrible, évidemment, d'apprendre ça. Et on a l'impression aujourd'hui, après ce qui s'est passé en début de saison, ces chutes terribles, que le cyclisme est devenu plus dangereux que la course automobile. Jérôme, juste ta réaction en 30 secondes.
Je ne sais pas quoi dire, ça me dresse les poils sur les bras, c'est horrible. Ça rappelle forcément Gino Madère et tous les autres. Voilà, on critique les coureurs, on dit qu'ils ne vont pas devant, etc. Mais il faut se rappeler qu'ils jouent leur vie quasiment à chaque étape quand même, les coureurs qu'on admire ou qu'on critique de temps en temps.
Voilà pour l'After Tour. On se retrouve donc demain pour le direct à 15h. Et puis évidemment, auparavant, il y aura sur la radio 100% route tout le prologue avec toute l'équipe. Bonne soirée, à demain.
Retrouvez l'After Tour tous les jours pendant le Tour de France.
De 19h à 20h sur RMC.